Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Comment faut-il que je vous le dise, l'émission divertissante et récréative avec du son, des images, des mots doux, des mots bruts et des bruits. Une heure de melting pot textuel mise en voix par Julie, bonsoir. Greg,
bonsoir.
Et Delphine à la technique,
salut.
Et moi-même, Anita.
Écrire des tralali et dire des tralala. Enfin, voyons des nuages et de la folie dans notre cercle, esclaves du lendemain. Le temps, enfin découvert, la route, le volontariat, la prudence, la loi et le schéma traditionnel qu'il nous apprend à diriger d'un pas sec et lourd. Tralali et tralala, cha-cha, chute et tralala. Bouge de là, stop et bouge de là. Réfléchir pour 6, à quoi ça sert? Une pause de 10 minutes au micro, d'accord. Une onde de choc, un balbu et du ciment, avec Jazz et ses potes. Tralali et tralala, cha-cha, chute et tralala. Il y eut un bal de quartier et c'était comme un terrain de résistance.
Adulte, jamais, jamais, comme l'existence qui ne mûrit pas, reste toujours verte, de jour splendide en jour splendide. Je ne peux que rester fidèle à la merveilleuse monotonie du mystère. Voilà pourquoi, dans le bonheur, je ne me suis jamais abandonné. Voilà pourquoi, dans l'angoisse de mes fautes, je n'ai jamais atteint un remords véritable. Égal, toujours égal à l'inexprimé, à l'origine de ce que je suis. En vain, sur le papier où j'écris, tombe, nue, une lumière qui, exténuée par son parcours dans l'air de midi, humide et étouffant, un miracle de soleil, dans cet objet extrême, trouve sa trouble agonie. En vain. Et en vain, poussive, tremblent les voies des ruelles, des fenêtres, dans un espace si suave qu'il les fait mourir. Je ne crois pas que ce soit un nouveau jour que celui-ci, où je retrouve mon âme, peut-être justement dans l'air et dans les voies. Vierge, et rester toujours pareil à la honte qui m'en représente son image. Vierge, honte de n'être vivant que par hasard, de ne pas suivre le temps. Quand le bonheur des gens résonne plus clair dans les ruelles, contre les murs qui dégoulinent de soleil, et que passent des charrettes au milieu des enfants, des chatons, des jeunes enlacés. Comme le destin rend un écho plus profond au cœur de la pensée, sordide halo des choses, le destin. Et si plus vif, un cri contre la mort, une chanson, un pleur d'enfant s'élève. Si plus doux, si plus feutré, le soleil se fait derrière une nuée ahurie sur la route. Non, tu ne peux pas y penser. Il serait si facile de dévoiler cette lumière ou cette ombre. Un mot. Et l'existence qui en moi existe seule, sous les voix de chaque homme, s'invente pour se rapprocher des vérités fuyantes, serait exprimée finalement. Mais ce mot n'existe pas. Si toutefois j'écoute dans le bruit qui monte du quartier un son un peu plus clair, ou que j'aspire dans l'odeur de la saison un souffle plus précis des feuilles mouillées, de pluie, alors, allusive, l'indicible vie qui est la mienne se dessine à mes yeux, rien qu'un instant, et je ne saurais la supporter. Mais un jour, à un jour, je hurlerai à cette vue. La révélation sera un hurlement, tellement distrait au fond de ma chair, ce ciel couvert qui ne laisse filtrer ni ombre ni soleil. À la surface, je ne fais que recommencer à m'étonner de mon destin. Mais si je regarde mes yeux dans le miroir, je vois qu'ils sont encore brillants. Oui, au fond, une lumière trouble y brûle. Mais c'est de l'amour réprimé, stupéfait d'être coupable. Celui qui, empêchant, a senti dans sa gorge la brûlure du lynchage, est resté toujours pur. S'il ne sait pas encore haïr, et dans ses yeux brûlés, une clarté aimante monte encore, de douceur et de courage.
Bientôt c'est l'an 01. Et vous y croyez, vous, à ces histoires?
Un petit peu que j'y crois. Toute la semaine à remplir des réservoirs, j'y crois. Et s'il y a quelqu'un qui le fera, ce sera moi.
Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison?
On enverra tous les gars qui fabriquent ces cochonneries aller gratter la terre avec leurs pieds, comme ça on manquera pas de blé. Ah, c'est le cadeau pour un plein. C'est les fleurs de France en plastique.
Dites donc, pendant ce temps-là, vous allez regarder pousser le blé?
Ce serait pas déplaisant.
Mais vous allez vous emmerder à 100 sous de l'heure, mon vieux. On est sur Terre pour travailler.
C'est pas évident, mais pas évident du tout. De toute façon, on aura le temps d'y réfléchir et de chercher à ce qu'on fait sur Terre, si on travaille ou quoi. Et puis, s'il faut travailler, bon, on pourra se flinguer, mais alors on saura pourquoi.
Les pauvres de Malafiesta. Qui était ma mère? Elle me laissait seule. Ah, mère. Ton cœur, nuit et jour, spectre dans ton cœur. Être seul dans une maison, à se débrouiller avec la faim du cœur. Ne pas savoir que l'on est seul avec les yeux. La barque, la plage, le ciel. Malafiesta, la barque est appelée par une lueur de voix. Le vieux caresse de sa rame les lueurs vertes dans le Tagliamento. Moi, adolescent, seul, à me débrouiller. Malafiesta, ma chemise. Je suis né dans un lit de pierre et le monde. Je n'ai eu qu'une seule chose au monde, mais quoi donc? L'oreille, la pupille, les cheveux de soleil et de soie, une seule chose, mais quoi? L'oreille. J'entendais chanter les mouettes, une voix de l'autre remblait appelait la barque blanche, et j'entendais la rame amère dans le fleuve. 15 ans, 20 ans, beau comme la lumière de Malafiesta, le cœur comme la plage, pauvre, assoiffé, nué, mouettes au cœur. Ma chemise de pierre, ma mère de pierre, le monde de pierre et moi toujours seul. Je jouissais, je riais, je dansais. Je jouissais, je riais, je dansais, seul avec cette chose qui n'était pas de pierre. L'œil noir qui riait, les cheveux blonds comme le soleil. Un des pauvres de Malafiesta, avec le pied du pauvre qui glisse sur le monde. Mon père et ma mère servaient, j'ai eu un patron dès ma naissance. Mais cette chose ne fainait pas au soleil. Ne se mouillait pas sous la pluie. Les filles et les enfants lui souriaient en me transperçant le cœur. Patron, toi, tu ne savais pas que j'étais seul dans le mystère, avec le même habit de fête tous les dimanches, et une mère et un père, gens du monde. Patron, toi, tu ne savais pas que j'ai été pauvre toute la vie, dans tous les recoins de la vie, dans tous les instants de la vie. Patron, toi, tu ne savais pas que j'ai vécu pendant 20 ans, et pendant 20 ans j'ai été pauvre. Avec la faim au cœur, patron, tout était à toi, je n'avais rien, rien que cette chose, cette ombre vive au cœur, et tu me l'as volée.
Yeah. J'ai fait escale dans les villes avec des compagnons dont j'ignorais le nom. J'allais au-devant des visages. Le regard du dedans émerveillait la chair. Chair, cette ville était de chair, de cuir. Elle était mise en mouvement par des courroies vivantes de transmission. Elle lavait ses vieilles cathédrales, les vieux pavés, le temps comme le linge sale. Elle criait sa gloire. J'ai craché sur de l'histoire. J'ai eu faim à Séville d'une Espagnole véritable, maigre comme un repas du mercredi des cendres. Elle vendait des canaries. À Cadix, j'ai rêvé aux aubes de Paris. J'ai maudit à Dakar les patries blanches. J'ai appelé à moi le sable, le sommeil. Mon cœur était faible et si lâche. Almeria, tu sentais l'ail. Partout, des gens assis dans des cafés, les banques. Nous parlions aussi peu que possible leur langue. Nous visitions les vieilles églises où Jésus-Christ, peint et cloué au mur, jette son cri. Les temps de la prière étaient déjà passés. Vieux le cri, vieille la beauté. Il n'y avait que le sang de vivant. Il coulait noir des chevaux éventrés et dans les abattoirs. Une sourde émotion se formait dans la bouche. Entrez, messieurs, voici les merveilles louches. Qu'étais-je venu faire dans ces forêts peuplées? J'avais cherché un peu de silence en espèces, un peu de soleil moins fatigué qu'une neige. La femme au ventre plein traversait mon sang. La vie allait éclater de plus belle. J'étais née à Jassy, que cherchais-je à Oran? Mon voyage infini, mon passé aboli, où vais-je aller porter mes pas? Sur quel rivage, quels visages humains me viendront appeler? Quelle fatigue surhumaine! Je ne peux écouter tant de voix à la fois. Qui parle? Que disais-je? Qui celui qui écoute? Assez! Assez, vous dis-je. La masse de mon corps me pèse plus que Dieu. Je ne peux plus lutter contre vents et marées. Je ne peux plus marcher. Les routes sont barrées. Assez.
Tout d'un coup, j'ai eu envie de ne plus rentrer dans le train.
Depuis jamais monté dans le train?
Non, non, enfin, jamais, non. C'est pas le mot, mais... Toujours le même train, vous comprenez, à la fin.
À deux, ce serait plus facile, vous trouvez pas?
Quoi donc?
Je peux plus prendre le train.
Je dors, je m'endors. Et toi aussi, tu dors.
Tu dors.
Tu t'endors. Et quand tu dors, tu crois que tu dors mieux que moi. Comme tout, mieux que moi. Dors. Dors. Je m'endors. Dans ce coin du monde ou ailleurs, il y en a qui dorment mieux que d'autres. Il y en a qui pensent mieux dormir que d'autres. Toi, là, qui ne veux pas que je t'approche, je vais venir dormir avec toi.
C'est l'été. Et la vie est si facile. Les poissons volent. Et le coton est haut. Et ton papa est riche. Et ta maman si jolie. Alors mon bébé, tu te réfugie au ciel.
Les plus belles découvertes, celles qui me suivent, qui m'arrachent à moi, dissolvent complètement mon entourage, c'est dans les livres de lecture, de vocabulaire et de grammaire que je les fais. Beaux enfants polis, toujours un frère et une sœur, vaste maison avec vestibule, salon, salle de bain, vie harmonieuse, toilette du soir, gong du dîner, père dans les affaires, mère jolie maîtresse de maison. Ils appellent leurs enfants « mes chéris » avec une infinie douceur et les enfants répondent « merci mamie » à une jolie vieille dame, leur grand-mère. Personne ne compte les sous le soir, les parents ne se disputent pas et il n'y a jamais quelqu'un de sous. Ces livres ne parlent pas comme nous, ils ont leurs mots à eux, leur tournure qui m'avertissent d'un monde différent du mien. La maman de Rémi prend congé de son ami. Ma mère n'entre pas dans cette image, pas plus que mon père ne peut deviser, converser, discourir dans un cercle de relations, collègues, intimes. Ces mots me fascinent, je veux les attraper, les mettre sur moi, dans mon écriture. Je me les appropriais et en même temps c'était comme si je m'appropriais toutes les choses dont parlaient les livres. Mes rédactions inventaient une Denise Le Sueur qui voyageait dans toute l'Europe. Je n'avais pas été plus loin que Rouen et Le Havre. Qui portait des robes d'organdi, des gants de filocèle, des écharpes mousseuses, parce que j'avais lu tous ces mots. Ce n'était plus pour fermer la gueule des filles que je racontais ces histoires, non, c'était pour vivre dans un monde plus beau, plus pur, plus riche que le mien. Tout entier en mots. Je les aime, les mots des livres, je les apprends tous. Ma mère m'offre le Larousse aux pages roses dans le milieu. Elle confie fièrement à la maîtresse que je passe des heures le nez dedans. La grâce, toujours, langage bizarre, délicat, sans épaisseur, bien rangé et qui prononcé sonne faux chez moi.
Ma solide.
À partir de 12 ans, j'ai fait mon petit barème, un système à mesurer. Les personnes bien ont une voiture, des porte-documents, un impair, les mains propres. Ils ont la parole facile, n'importe où, n'importe comment. Au guichet de la poste, oh, c'est incroyable nous faire attendre ainsi. Mon père, lui, ne proteste jamais, non. On peut le faire attendre des heures. La réplique, continuellement, les gens bien. On ne les voit jamais au café de mon père. Les femmes bien, je les regarde encore plus. Elles sont toutes particulières. La coupe de cheveux, le tailleur, des bijoux, discrètes, pas un mot plus lourd. Que l'autre. Elles ne bavagent pas dans la rue, elles font leurs courses dans le centre avec de grands paniers au bout du bras. La légèreté, voilà, est impeccable, propre. Les autres, ils ressemblent tous aux clients. Des ouvriers en bleu, le béret ou la casquette, le biclou. Des vieux, sans couleur, tous les machins délavés, informes. Même sur leur 31, les jours de communion, on les repère quand même. Les ongles noirs, pas de manchette à la chemise, surtout la manière de marcher, oui. Les bras ballants, mous, incertains. Ils ne savent pas causer correctement. Ils gueulent. Les femmes qui viennent aux commissions avec leurs chaussons, leurs cabas de toile cirée, se ressemblent toutes. Trop grosses, trop maigres, toujours déformées, la poitrine fondue, absente ou lourdement coulée à la ceinture, les fesses encerclées par la gaine, les bras mal tournés, brillantine rougeaflore sur une permanente qui finit toujours, toujours en mèche pendouillante. Je n'ai jamais pensé que les différences puissent venir de l'argent. Je croyais que c'était inné, la propreté ou la crasse. Le goût des belles affaires ou le laisser aller. Les soulographies, les boîtes de corned beef, le papier journal accroché au clou près de la tinette, je croyais qu'ils avaient choisi, qu'ils étaient heureux. Il faut des tas de réflexions, des lectures, des cours pour ne pas penser comme ça, surtout quand on est gamine et que tout est installé.
Ma solide.
Manger. Manger, je ne voudrais jamais les voir manger, surtout quand c'est bon. Du poulet, des gâteaux à la crème, ils plongent, ils écartent les bras, ils aspirent, ils ne parlent pas. Les bouchées passent et repassent avec la langue. Un bon coup pour enfoncer le petit soupir d'aise. Ah, les petits bouts de pain qui essorent la sauce dans tous les coins, sussautés, aspirés, retrempés, ramollis. Ma mère ramonne ses gencives de l'index. Comment oser ? Mes parents ? Le scandale ? Qu'est-ce que ça fait quand ce ne sont pas vos parents ? Rien, de la pure curiosité, du mépris ? Ce sont mes parents, les miens, et je les vois baffrer avec vulgarité, sans pudeur, leur seul plaisir, comme les clients, manger. Ils se laissent aller, ils sont faits comme ça, clapotement, glou-glou, soupir, bras étirés. Ils ne font pas attention, ils montrent tout, culotte sale, pendue dans le grenier, dentier dans la cuvette. Manger du bout des dents, oui, dame des salons de thé aux gestes raccourcis. J'aurais aimé la discrétion, la mesure, la pudeur. À la place, la précipitation, le débordement, la saleté, ces bruits de nourriture. Il n'aurait pas fallu juger, non, là-dessus. Pour moi, c'était une différence. Paysan du XVIIIe siècle mangeant sa soupe, dit un tableau du livre d'histoire. On dirait mon père.
Pirlena, utta pirlena, tröjstena, tätta pirlena, pirlena, sägstena, svärdena, pirlena. Pirlena, utta pirlena, tröjstena, tätta pirlena, pirlena.
êtes bien sur Radio Guinguette avec Comment faut-il que je vous le dise, et notre tenancière préférée, Nounette aux platines.
C'est pas du tout ce qu'on avait dit.
Ou alors Nounette, tu nous en sers une petite.
Parce que tous les lundis, non pas tous les lundis, tous les 15 jours, une fois sur deux, de 18 à 19, on remet le couvert.
Et on tient le comptoir des poèmes. Tu nous en resserres un petit.
Qu'est-ce que cher là, au 102.2 là.
Tournée générale.
Tournée générale. Bon,
comment
bah
faut-il
alors
que je vous
c'est
dise
parti, mais surtout n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la radio. À 7 minutes, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À 7 minutes, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira « Elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce ». À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur, on sait ce que c'est que la radio. Il ne peut rien s'y passer. Rien ne peut avoir d'importance. Ce n'est rien. Ce n'était rien. Juste pour faire du bruit. Juste de la musique. Juste des mots, des mots. Des mots, des mots. Comme à la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit. Da-da-da-dum. Totem, tout juste un peu de bruit. Ta-ta-da-ta-da-tam. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Il y avait longtemps que le spectacle était commencé de l'histoire. On en avait déjà oublié les débuts, les origines fabuleuses. Quand je suis née au monde, au milieu de l'intrigue, comme un événement prévu depuis toujours et cependant comme une surprise, un personnage inquiétant, qui pouvait tout laisser en place, qui pouvait tout changer, le sens de l'action, la trame des mobiles, qui avait sur le texte établi de toujours l'ascendant prodigieux, étrange du vivant, le droit de bafouiller les meilleures répliques, d'improviser un monde en marge de l'auteur, et tout à coup, malgré le plan, s'introduire soi-même au sein du personnage, en criant excédé vers le public des loges, « Il n'y a pas assez de réel pour ma soif !»
Terminer la fête sur une Rome sourde à toute attente naïve, terminer le jour, comme des ordures au vent, les pas du retour, les voix, les sifflements vont mourant, vastes dans les rues, rares sous les porches. C'est la pause du dîner. Ensuite, plus tard, sous le poids agité de l'ombre sale, sans air, dans les habits de fête de passants inconnus, là où le chaos de la ville se gèle, dans des clartés de lumière constellées le long des routes murées par une paix de mort, le soir ancien revient. Sur les quais désertés, d'étincelantes couronnes de phares, quelques étoiles aux côtés des nuages, et dans les quartiers excentrés, du Testaccio à Monteverde, stagne lasse et humide une vibration de voix de piétons et de moteurs, incrustation perdue de notre monde sur l'univers muet. Et j'ouvre la fenêtre sur un blanc lundi matin et la rue indifférente dérobe parmi sa lumière et ses bruits ma présence rare entre les persiennes. Ce mouvement que je fais, ces jours-là, hors du temps, qui semblait dédié à moi, sans retour et sans rêve, espace saturé de mon état, presque une extension de ma vie, de ma chaleur, de mon corps, et il s'est interrompu. Je suis dans un autre temps, un temps qui dispose ces matins dans cette rue que je regarde, inconnue, parmi ces gens qui sont le fruit d'une autre histoire.
Même les clochards regardent des séries sur leur portable. Ils s'accordent du temps de cerveau disponible. Captivité de leurs yeux, ils laissent de côté les passants et sont à ce moment dans leur salon grand écran. Plaid sur les genoux, chien tranquille, lumière bleue sur le visage. Ce serait malvenu de leur donner une pièce maintenant. Ça provoquerait le même effet qu'une coupure pub. L'appel à aller acheter quelque chose, alors que là, tout allait bien. Leur visage détendu ne semble manquer de rien. À la limite, apporter un plateau télé, sandwich, boisson fraîche et rince-doigts pour toucher l'écran le temps de mettre en pause. Un merci encore captif émergerait peut-être de la sortie d'écran avant d'y replonger. Happé par le portable, je peux observer et détailler fixement ces individus en suspens. Deux clochards télévisés, sac kaki débordant, tapis isolant, plaid gris, genoux pliés, le portable posé dessus, les cheveux mi-longs, bouclés, bruns sales, presque devant les yeux, et des tas de trucs indéfinissables épars autour d'eux. Un mec à vélo qui s'arrête soudainement, jean, basket, t-shirt, pose le pied à terre sur le trottoir et chope son portable. Plus aucun mouvement. Son corps est fixe. Je me dis que la télétransportation existe en fait. Le portable laisse la partie physique, l'enveloppe sur place et emporte l'esprit ailleurs. Et ça arrive tout le temps, n'importe où. Ce n'est pas une technologie vraiment maîtrisée. Pendant les phases de télétransportation, le corps est souvent mis en danger, oublié. Le corps erre tout seul entre le trottoir et la route, les poteaux, les autres zigzagants, risquant de percuter ses conséquences, où certains corps restent figés à n'importe quel endroit, obstruant la circulation, gênant le passage de piétons, voire de véhicules mieux carrossés que leurs portables. La télétransportation rend-elle invincible ? Moi aussi, je veux être un zombie avec de super pouvoirs.
Un papillon sur deux se pose sur mon épaule. Je lui demande « Quoi de neuf aujourd'hui ?» Il ne répond pas et s'en va à chaque fois. Alors je comprends pas, jamais rien. Alors décidons d'être clair et de clairvoir. Je mange plus, je bois plus et peut-être j'irai faire un tour, histoire de penser à tout ça. Et je louche souvent. Il n'y a que moi qui le sais. C'est comme ça et je vis avec. Fut un temps où je cherchais des affaires. Continuellement, j'ai trouvé et c'est là. Tout va bien. Le cadavre exquis est en effet délicieux. Je continuerai à chanter cette chanson rigolote. Et fut un temps où je cherchais des affaires. Et continuellement, j'ai trouvé, c'est là.
Il pèse sur les estomacs étourdis des hommes au début de l'après-midi, le jour qui engorgeait de vie, tant coloré par la grisaille quotidienne, continue insensible son mouvement, comme s'il était mort dans le quartier, où seule une radio a encore de la voix pour étourdir l'enfer de ce vide. Mais cette heure tombe aussi dans la grisaille, silencieuse comme la mort du midi, dans l'aveuglante pénombre hivernale. Et voici qu'un groupe d'enfants crie dans la ruelle, près des toilettes, détonnant au milieu de murs quotidiens, et une charrette fêle sur la chaussée, l'heure où une autre heure résonne désormais, étendue, sans nom de croyant, ensevelie dans le silence qui déjà tremble, de reprendre le bruissement quotidien, étendue, incarnée dans le quartier pour entendre la voix d'une radio, unique voix dans la scène muette, où le temps reprend aveuglément son souffle au son mort d'une chansonnette, en recommençant le mouvement quotidien vers le vrai vide qui nous attend. Et déjà la nuit pâlit dans une clarté qui griffe la cornée et y réfléchit une image de mur mutilé qui pêche dans l'ombre de la rue où une clameur de voix et de charrettes comme dans l'enclos d'une cour familière et affligée se raréfie. Et déjà la nuit brûle dans une ombre qui aveugle les yeux encore ouverts en direction du ciel de la rue déserte où le bruissement des accordés se dissipe. Ce qui éteint avec le jour la vacance, ce sont des coups furieux et nus. L'angélus du quartier torturé, avec le jour par péché d'ignorance, puéril et obstiné, dans des cœurs sourds à la clochette qui scande, par coups secs, le sens de la nuit. Mais dans la brûlante odeur de la nuit, profane le sifflement d'un garçon, plaisante avec la mort, vibrant dans les coups de la clochette, nue et seule, il sera toujours donc aussi pur. L'inconnu qui, invisible, s'enfuit, à bicyclette, sur la chaussée dure, perdu dans le silence de la nuit, au point de ne pas craindre le monde que l'obscur coup de la campagne lui révèle, puéril et obstiné dans la nuit.
À Ercilly, pour rétablir les rapports qui régissent la vie de la ville, les habitants tendent des fils qui joignent les angles des maisons, blancs ou noirs, ou gris ou blancs et noirs, selon qu'ils signalent des relations de parenté, d'échange, d'autorité, de délégation. Quand les fils sont devenus tellement nombreux qu'on ne peut plus passer au travers, les habitants s'en vont, les maisons sont démontées, il ne reste plus que les fils et leurs supports. Du flanc d'une montagne où ils campent avec leurs meubles, les émigrés d'Ercilly regardent l'enchevêtrement de fils tendus et de piquets qui s'élèvent dans la plaine. C'est là toujours la ville d'Ercilly et eux-mêmes ne sont rien. Réédifient Ercilly ailleurs avec des fils, ils tissent une figure semblable qu'ils voudraient plus compliquée et en même temps plus régulière que l'autre. Puis ils l'abandonnent et se transportent encore plus loin, eux-mêmes et leur maison. Ainsi, en voyant sur le territoire d'Ercilly, tu rencontres les ruines des villes abandonnées. Sans les murs qui ne durent pas, sans les eaux des morts, que le vent fait rouler au loin. Des toiles d'araignées de rapports enchevêtrés qui cherchent une forme. Mélanie. À Mélanie, chaque fois qu'on arrive sur la place, on se trouve au milieu d'un dialogue. Le soldat fanfaron et le parasite qui sort de chez quelqu'un se rencontrent avec le jeune homme dépensier et la courtisane. Ou encore, le père avare fait sur le pas de sa porte ses dernières recommandations à la fille amoureuse. Et il est interrompu par le valet imbécile qui va porter un billet à l'entremetteuse. On retourne à Mélanie des années plus tard et on retrouve le même dialogue qui se poursuit. Entre-temps, sont morts le parasite, la courtisane, le père avare. Mais le soldat fanfaron, la fille amoureuse, le valet imbécile ont pris leur place, remplacés eux-mêmes par l'hypocrite, la confidente, l'astrologue. La population de Mélanie se renouvelle et les acteurs meurent l'un après l'autre. Et pendant ce temps, viennent au monde ceux qui à leur tour prendront place dans le dialogue. Celui-ci dans un rôle, celui-là dans un autre. Lorsqu'il y en a un qui change de rôle ou abandonne la place pour toujours ou y fait son entrée pour la première fois, se produisent des changements en chaîne jusqu'à ce que tous les rôles soient à nouveau distribués. Mais en même temps, la servante spirituelle continue de répondre au veillard en colère, l'usurier n'arrête pas sa poursuite contre le jeune homme déshérité, la nourrice console toujours la belle-fille, même si aucun d'entre eux ne conserve les yeux ou la voix qu'il avait dans la scène précédente. Il arrive quelquefois qu'un seul acteur tienne simultanément deux emplois et davantage. Tyran, bienfaiteur, messager. Ou qu'un rôle soit dédoublé, multiplié, attribué à 100 à 1000 habitants de Mélanie. 3000 pour l'hypocrite, 30 000 pour le filou, 100 000 fils de rois tombés dans le malheur et qui attendent d'être reconnus.
Un début, une feinte. Ou peut-être que la feinte eut lieu avant et que rien n'a débuté. Bercé de broderies, brodé d'illusions, fantasmé pour que la vie belle existe, quelque part. Fantasme trompeur, distance du réel. Fantasme cajoleur, complice de douceur. Fantasme du « quand je serai grande », moteur, porteur. Fantasme des « pourquoi pas ». Test avant de choisir, d'agir, de réaliser, d'initier, de débuter. Une feinte, un début.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas peur. Au fond, on craint ils vont pas nous donner des gifles, quoi. On n'a rien à craindre.
Et eux, tu crois que j'ai pas peur des gifles qui se démènent comme ça?
Amer le goût de notre sort. À quoi servent sanglots et plaintes? Pour le pain dur d'un passeport, on a pris nos empreintes. Mon père, couché sous la terre jusqu'à l'heure du jugement. Pourquoi as-tu peur que je meure? Pourquoi ai-je peur du vivant? Nous ne parlons aucune langue. Nous ne sommes d'aucun pays. Notre terre, c'est ce qui tangue. Notre havre, c'est le roulis. Marchand d'appétit, vieille rosse. Me voici assis sur un sac. Le ciel du côté de mon gosse et moi du côté du ressac. Parmi le cuir fin des oranges, parmi des massacres d'oignons, je touche, absurde compagnon, aux grandes patries étranges. Comme tu fonds dans mon gosier, sanglots du tropique, ni prier, ni crier sur la grande route maléfique. De Kiev, d'Irkutsk, de Varsovie, pour Sao Paulo, pour Lima. Mon Dieu, quelle chienne de vie, traînée de climat en climat. Et quelle amertume, ô délice, que de glisser l'esprit à jeun, sans matière comme un parfum, entre les doigts de la police. Rameur d'une vieille fiction, quand donc finira le périple? Nous naviguons dans le multiple pays de la malédiction. Ô mer cruelle, existence, quelle louve pour ces petits eut plus d'eau verte dans la panse et moins de lait dans ses pis. Sur ce maigre bateau fantôme, qui est à lui-même son port, quelle longue java que l'homme sur l'accordéon de la mort. Que vienne la fin de ce monde, puisse-t-elle fermer nos yeux, mener toute seule la ronde étoile qui aide aux cieux. Sommes-nous nés sur une route qui avance et ne finit pas, afin de casser notre croûte entre la terre et l'au-delà? Et sommes-nous partis de l'Olt, du Dniepr et de Crimée, afin de te porter révolte jusqu'aux entrailles du Créé? Mon père, couché sous la terre, les yeux ouverts dans le tombeau, sais-tu qu'on est mieux sous ta pierre? Ici, la terre est toute d'eau. On a pris nos empreintes sur toute la terre et plus loin. À quoi servent sanglots et plaintes? La route marche et ne finit point.
Voilà. C'est déjà la fin de l'émission. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez pu entendre dans l'ordre le désordre des extraits d'Annie Arnaud avec les armoires vides, des extraits des villes invisibles d'Italo Calvino sur les musiques de Baron Samedi, plus précisément le morceau Flow to Freeze.
Nous avons eu également Adulte Jamais de Pierre Paolo Pasolini et chez Point. Trois extraits, effectivement.
Voilà. Une adaptation de Summertime, c'est l'été, mais c'est bien le printemps, hein, on est bien d'accord.
Ouais, on y croit quand même.
Des poèmes qui datent d'il y a déjà quelques années de Benjamin Fandal, donc ça a été écrit en 1942. Ce poète, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps au hasard des librairies, d'un livre comme ça qui m'a accroché. Et donc c'était des extraits du Mal des fantômes. Le chapitre s'appelle Ulysse et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus heureux. Il parle avec un peu de prémonition de sa condition de juif pourchassé à travers le monde.
Côté musique, vous avez pu entendre Electric Anglo-Sam de Primus, mais aussi Cocktailis de Massico, des extraits du toujours aussi inspirant L'An 01, hein, voilà. Et puis, on va vous laisser en
et
musique.
Puis,
une reprise de Brigitte Fontaine.
Ah oui, bah oui, parce que Brigitte, vous avez toujours compris, c'est un peu notre fil conducteur.
Aussi un écrit perso et puis un écrit que je dois quand même à un SDF.
Ah oui, PH. Raconte, incroyable cette histoire.
Donc je dors, ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit, je tiens à le dire. C'est un élan de parole, je n'ai pas son nom, mais du coup, voilà.
Petite dédicace.
Capté dans l'air.
Ouais. Ouais. Et je dors et je dors dédicace. Et je dors mieux que vous.
Et un petit vinyle pour finir. Et
voilà, on vous laisse avec le prince Harry. On vous fait des bisous et puis on vous retrouve dans 15 jours, toujours de 18 à 19.
À tout bientôt.
Ciao, ciao.
À bientôt.
Ciao.
Ah.
Arrivederci.